Moi, je trouve que tout de suite, ça met une petite ambiance, ce jingle. Non, non, je ne trouvais pas, franchement. T'as envie de... Déjà, dès le début du podcast, toi, t'as envie de te dire « Ma vie, c'est de la merde, toi. » Tu vois, c'est, ça lance les bails.
Moi, ça me donne envie d'aller me promener dans la nature.
Moi, ça me fait kiffer.
Oui, eh bien, bonjour et bienvenue sur le podcast Dimanche Dépression. Oui, parce qu'entre la semaine dernière et cette semaine, nous avons changé le nom du podcast. On s'est dit que c'était un peu plus catchy, Dimanche Dépression. Parce que Dimanche Dépression, pourquoi ? Pour que jusqu'à la fin de la semaine, on touche le fond. Voilà, ce sera plus ou moins le slogan de cette semaine. Et cette semaine, vous remarquez que nous avons un peu changé les participants, que pour ceux qui nous suivent en live, qu'il y a de la lumière, ce qui n'était pas le cas de la semaine dernière. Alors, j'ai avec moi...
La semaine dernière, on était à la bougie.
J'ai avec moi l'habituel de l'étape, ce cher Laurent. Comment ça va, Laurent ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah, ça va pas trop mal, ta semaine s'est bien passée, mais t'es toujours là finalement.
Oui, bah, j'ai toujours ma petite toux, mais on va essayer de faire avec.
Et bon, d'ailleurs je dis ça, mais c'est censé être le premier épisode pour ceux qui l'encontreront en audio, mais il y a une version live de notre pilote sur stream. Et j'ai avec moi la charmante et la délicieuse Marine. Présente-toi Marine, n'hésite pas.
Bonjour, moi c'est Marine, enchantée. Bienvenue.
Waouh, quel enthousiasme. On sent que t'étais contente d'être là. Alors, cette semaine, on va refaire comme la semaine dernière en réalité. Donc, on va rapidement vous redonner à peu près ce qu'on fait chaque semaine. D'abord, on va parler de quel sujet va-t-on parler d'ailleurs en fait ? De la dépression.
De la dépression, c'est un peu le filler de l'émission.
Et d'abord, nous allons faire la dépression en chiffres. Que Laurent va nous faire. Ensuite, nous aurons deux chroniques. D'abord, une chronique de Marine. Ta chronique, Marine, est sûre.
Sur qu'est-ce que c'est et les formes de dépression qui existent.
D'accord. Et moi, après, il y a une chronique de moi sur est-ce que, comme tous les dépressifs disent, la vie, c'est vraiment de la merde. Voilà, on verra. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite pour ne pas vous... Enfin, pour pas éviter les spoilers. Et enfin, on terminera sur un petit moment lol, rigolade, voilà, parce que faut se détendre. Et contrairement à la semaine dernière, Laurent nous fera l'instant ASMR en live, parce que la semaine dernière, nous avions tout préparé, mais là, cette fois-ci, on a préparé d'autres trucs, mais pas ça.
J'ai très hâte.
Voilà. Donc, je suis en train de me galérer avec l'appli de jingle, ça, je vais réussir à le lancer.
T'as pas un petit jingle RTL ?
Et donc... Voilà, nous allons pouvoir lancer les chiffres puisque cette semaine nous avons tout préparé, donc on va pouvoir lancer les jingles en direct. Voilà, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, le jingle en direct. Alors, Laurent, nous t'écoutons sur les fameux chiffres de la dépression.
Oui, alors, je me suis dit que les chiffres et la dépression, ça allait bien ensemble, sauf pour les profs de maths et les gens qui bossent dans la finance. Donc, je me suis occupé de ça. Je vais commencer par définir la dépression. Enfin, c'est pas moi qui l'ai définie, c'est le site de l'OMS Europe. Donc, la dépression constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité, ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, une sensation de fatigue et un manque de concentration. Joie de vivre.
Bah oui, tu veux qu'on en discute tout de suite ou tu veux je te laisse nous faire l'ensemble des chiffres.
Bah, je me demande s'il y a besoin de discuter d'une définition.
Si, je te disais que j'étais assez surpris en réalité... que la dépression ne soit pas considérée comme une psychopathologie. En fait, dans la définition, on définit bien que en réalité, c'est à la fois un état psychique qui a une incidence somatique. Donc en gros, le somatique pour définir les choses, c'est qu'en gros, c'est ton
ça a des incidences physiologiques.
Voilà, des incidences physiologiques sur le corps. Donc voilà. Et que donc, c'est bizarrement, quand bien même on dit que, bizarrement, ça attaque le psychisme et ça attaque le corps, ça ne semble pas être considéré comme une pathologie, mais comme un trouble. Voilà, ça m'avait un peu surpris. Je m'attendais en fait à ce que ce soit vraiment défini directement
Non, ils mettent bien trouble mental.
Hein. Ouais. Sur tous les sites que j'ai pu trouver, c'est défini comme un trouble. En fait.
Oui, mais est-ce que un dépressif, c'est pas malade? C'est
C'est
ça
une
que je veux
maladie
dire.
qui se
C'est
voit pas.
considéré comme malade, si, mais ça fait partie. Ouais, après, oui, mais moi, ça, quand j'ai vu trouble mental, sur le coup, j'étais pas forcément d'accord non plus.
Quand t'as un cancer, ça a une incidence physique assez importante, mais ça se voit pas forcément. Sauf si tu fais une chimio, là tu perds des cheveux et tout, ça se voit. Mais c'est à peu près la même idée.
Ouais, non, mais ok, bon, allons-y.
Donc, j'ai relevé différentes manières de traiter la dépression, en tout cas en France. Le principal moyen, on va pas se le mentir, même si ça traite surtout les symptômes somatiques, c'est les médicaments, les antidépresseurs. Donc, il en existe de tout type de sorte, et en tout type de sorte, bravo, formidable. De tout type pour traiter les différents types de dépression bien sûr, mais aussi les différents types de morphologie parce que comme chacun sait, tout le monde ne réagit pas de la même manière aux mêmes molécules. Les femmes enceintes ont certaines indications précises, etc., etc. Donc il y a la médication, il y a la psychothérapie, principalement deux volets, la thérapie psychanalytique. Je rappelle que la psychanalyse est considérée comme efficace. En tant que thérapie psychiatrique, essentiellement pour la dépression et pour le reste, elle a toujours pas fait ses preuves. Et les thérapies cognitives comportementales qui consistent à chercher à guérir la dépression en guérissant ses symptômes également. Donc on retrouve un peu le principe de la médication évoqué précédemment. Il y a la luminothérapie qui est pas mal évoqué aussi, ça consiste à passer une demi-heure chaque jour sous une lampe.
Oui, plus ou moins pour représenter, enfin pour refaire les rayons du soleil. Par exemple, on dit que l'hiver,
Exactement.
T'es un peu tristoun parce que t'as un déficit en vitamine D, je crois. Ou ouais, c'est ça, D. Et en gros, on
C'est
essaie d'en
ça.
produire.
Exactement.
D'où la dépression
Pour
ces
vous
hivers.
donner une idée, une belle journée ensoleillée d'été, on sera à 100 000 lux et quand on est au bureau, on est à 500 lux. Donc il y a une différence assez énorme qui
Ouais, le
explique le
luxe, c'est
fait que
la,
par.
c'est le luxe, c'est l'unité de mesure, c'est sa lumière.
Exactement.
Ok.
Et donc les lampes en question sont à 10 000 lux. On est juste un ordre de grandeur inférieur à la lumière d'une chaude journée d'été.
Donc la mozzarella en rayon est fortement déprimée théoriquement. C'est pas vraiment de sa
Exactement.
faute.
Oui. Non, la mozzarella, tout le monde l'aime bien en
Non.
plus.
En vrai, j'aime pas ça, c'est pas bon.
Ah bah on comprend mieux pourquoi elle fait la tronche à chaque fois qu'elle te voit.
Voilà, on t'invitera plus aux soirées pizza.
Je sais faire épisode même genre.
Alors, il y a également, parmi les autres thérapies évoquées, le fait de pratiquer du sport, faire de la relaxation, du yoga, de la méditation, ou, fait qui m'a étonné, manger du millepertuis. C'est une plante, que je connais pas bien.
Alors
Je connais
là,
pas du
tout
tout.
de suite, recherche
C'est
Google.
tout ce que t'as trouvé sur. Parce que j'ai entendu aussi qu'ils faisaient par électrochoc, une connerie comme ça aussi. Par
Alors,
les ondes magnétiques.
c'est une petite fleur jaune.
c'est une
Voilà le
petite
millepertuis.
fleur jaune.
Je croyais que c'était une expression digne des BD franco-belges, mais non.
Mettez des fleurs dans vos vies. Non, j'ai rien eu sur thérapie par onde électromagnétique ou quelque chose comme ça.
Tu veux
Mais
dire
enfin.
mettre des électrodes sur la tête des gens et leur envoyer des stimulations électriques?
Je crois que c'est ça. Hein. J'avais lu ça parce que j'avais aussi cherché un peu
Mais c'est
partout
peut-être une
et
thérapie qui est encore à l'essai.
c'est possible.
On faisait ça dans
J'ai pas
les
trop
années 30,
retenu.
c'était le bon temps. Les gens ils devenaient fous et tout. Ouais, ça permettait de faire guérir l'hystérie aussi.
Mais il y avait beaucoup de cobayes à l'époque.
Ouais, particulièrement des femmes, on sait pas pourquoi. Non mais malheureusement c'est triste. C'est triste mais c'est une
C'est.
réalité, c'est l'histoire de la psychiatrie en France, hein, mais bon.
Ah, mais c'est comme hystérie, hein.
Donc pour revenir sur les chiffres, je vais rebondir sur ta remarque. Les femmes sont deux fois plus touchées par la dépression. Mais attention, le taux de suicide chez les hommes est trois fois plus élevé. Est-ce qu'il faut entendre que le sexe fort, finalement, c'est pas celui qu'on pense? Je vais reprendre les chiffres en général.
Je t'écoute.
Donc, la dépression, c'est la première cause d'incapacité au travail dans le monde, selon l'OMS. Ouais, je vais pas citer les sources à chaque fois. En gros, j'ai trois sources principales. L'OMS, le rapport 2017 sur la santé de la population française et le site de l'assurance maladie. J'ai aussi consulté le site du Sénat, ce genre de truc. Enfin bref, voilà pour les sources. Je reprends. Première cause d'incapacité dans le monde. 300 millions de personnes vivent avec ce trouble, ce qui représente 4% de la population mondiale. La France est le pays le plus touché au monde, avec un taux de dépression de 21%, suivi de près des USA, 19,2%. Et après, on passe en dessous de 10% pour les autres pays. Comme quoi, on est toujours des champions.
La France, monsieur, la France.
Champion du monde, 2 étoiles. Ensuite, la dépression, ça représente la principale cause de suicide, même si c'est pas la seule. Il y a 9653 morts par suicide en 2017, donc ça fait 15 à 20% des déprimés. Donc 15 à 20% des déprimés finissent par réussir leur tentative de suicide.
Réussir ?
Voilà, ça prend pas en compte les suicides ratés, ni d'ailleurs les territoires hors métropole, donc le chiffre est à revoir à la hausse.
C'est bien, c'est bon d'en rire. Il est bon d'en rire, vraiment. Le non suicide, mais... quel bon sujet.
Alors, ça me fait rire jaune parce qu'on sait très bien que quel est l'état de nos territoires d'outre-mer et que je pense pas qu'ils soient en reste au niveau de la dépression, au niveau de leur population. Enfin, on peut relever en ce qui concerne la démographie que 25% seulement des patients dépressifs reçoivent un traitement adéquat. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ce que ça coûte à la société, la dépression. C'est un sujet grave. 1000 milliards de dollars US sont investis chaque année au niveau mondial pour traiter la dépression. En France, plus particulièrement, il y a 45... oui, je parlais surtout des antidépresseurs. Il n'y a pas de données sur la prise en charge... en psychothérapie, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc, en France particulièrement, plus de 45 millions de boîtes d'antidépresseurs sont vendues chaque année, ce qui revient à peu près à 500 millions d'euros. Sachant que là, c'est le suivant le prix du médicament générique. Faut voir à la hausse, du coup, parce que les médicaments de marque sont toujours un peu plus chers. Les antidépresseurs sont remboursés à 65%, ce qui fait que ça coûte à la Sécu, cette connerie-là. Ça coûte 325 millions d'euros chaque année à la Sécu.
Bonne ambiance. Enfin, vraiment, bonne ambiance. Combien tu dis ? Et c'est combien le budget de la Sécu par an ? Ça se compte en milliards ?
Alors, alors pour les remboursements de Médoc en général, c'est 11 milliards 800 millions. Voilà. Donc ça représente 2,7%. Des remboursements de médicaments.
D'accord.
Voilà. Sachant que le prix de la boîte de Xanax, c'est à 1,40, on peut facilement compter du coup combien de boîtes ça fait. Et partant de là, se dire s'il y a tant de boîtes qui sont achetées et que un Français en consomme tant par semaine. Disons par mois plutôt, c'est un peu violent par semaine.
Ouais, que je sais pas, un aprazolam ça peut monter à 3 par jour. Donc une boîte, je pense que ça fait une boîte de 12 à 24. Donc ça peut aller très très vite, hein, mine de rien. 3, ça fait 4, ça fait une boîte et demie par semaine. Oui. Donc ça peut aller vite. Hein.
Et bref, du coup, avec le nombre de boîtes qu'on a, on peut se dire combien de. Quel pourcentage de la population française consomme des antidépresseurs ? C'est assez intéressant, ça fait 6% de la population française. Une personne sur 20 consomme des antidépresseurs.
Une personne sur 20. Ah ouais, donc ça, c'est quand même...
Sachant qu'il y en a, en fait, ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'en fait, il y en a qui sont diagnostiqués dépressifs alors qu'ils ne le sont pas. Ça a été dit aussi.
Effectivement. Voilà, on reviendra sur les difficultés de diagnostic, le fait que qu'on confonde souvent bipolarité et puis dépression.
Par contre, bipolaire, ils ont des phases vraiment de dépressifs aussi.
Oui, effectivement, des fois ça se cumule, un trouble vient rarement seul.
D'accord, donc nous avons fait le tour des chiffres.
Le tour des chiffres, c'est fait. J'espère que c'était un moment agréable pour vous, autant qu'il l'était pour moi.
Toujours, toujours. Le plus important, je pense, que comme dans toute relation, c'est qu'il faut savoir donner du plaisir. Et donner du plaisir donne du plaisir. Tu vois, ça me fait plaisir de donner du plaisir.
Ça m'a fait plaisir de te procurer du plaisir.
Eh ben merci. Sur ce, bah on va lancer. C'est pour ça qu'il me caresse la jambe. Sur ce, on va lancer la première chronique. La première chronique sera celle de Marine. Je balance le jingle et puis après Marine, ce sera à toi. Et alors que Laurent commence à avoir tous les signes de la peste, nous allons lancer la chronique de Marine.
C'est la tuberculose.
Bonne ambiance. Allez, on y va. On t'écoute.
Dépression ou dépression? La dépression, c'est un trouble mental, comme l'a dit Laurent. Et donc, c'est comme la bière, t'es souvent sous pression. Contrairement à la bière, qui te rend joyeux, rafraîchit ton palais, la dépression, ça se voit pas déjà. Et en plus, ça te rend triste. Mais en plus, tu peux devenir agressif. Après, tu me diras, l'alcool, ça peut rendre agressif certaines personnes. Tu peux boire des pressions à tire-larigot, au moins tu dormiras profondément. Et comme disait Laurent tout à l'heure, avec la dépression, tu dors pas beaucoup, voire quasiment pas. Voilà. Sinon, tu manges mal aussi, t'as des troubles alimentaires avec la dépression, qu'avec une bière, tu vois, tu peux boire ça dès le matin parce que t'as des céréales dedans, c'est nourrissant. La dépression, pas du tout.
En vrai, tu grossis en buvant de la bière en plus de ça. Super saloperie.
Alors qu'avec mais la dépression,
non, la dépression, ça dépend. Tu peux grossir aussi parce qu'il y en a, ils mangent juste mal. Ils ont pas forcément. Parce qu'en fait, quand même si tu jeûnes, trop jeûner, c'est pas bon parce qu'une fois que tu manges, en fait, ils vont. Ton corps, là, tout, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle.
Tu vas hypermétaboliser en fait tes graisses.
Voilà.
Waouh, comment j'ai super bien parlé mon truc. Allez, quel vocabulaire, Guillaume.
Et puis, avec la bière, tu démarres bien ta journée, quoi. Et donc, en parlant de ça, la dépression, toi, ça te démotive. Quoi, pour quoi que ce soit, tu veux plus sortir, tu t'isoles. Même chez toi, tu fais plus rien. Tu penses à rien. Tout ce que tu fais, c'est sans intérêt. Une bière, c'est plein de bulles, ça pétille, ça donne du peps à ta vie. La dépression, t'es juste dans ta bulle et tu te renfermes sur toi-même. Et c'est toujours vide d'intérêt. Après, le point commun qu'il y a entre la dépression et la bière, c'est que tu peux subir des troubles de mémoire parce que bah, tu peux faire des blackouts ou t'as du mal à mémoriser certaines choses.
Alors, j'en profite. Fun fact, il se trouve que le blackout touche plus les femmes que les hommes. Voilà, j'ai appris ça statistiquement.
Tout comme la dépression.
Tout comme la dépression. Oh, pourrait-on faire des liens?
Tout est lié. Après, donc, il existe plusieurs formes de dépression comme il existe plusieurs types de bières. Alors, l'avantage des bières, c'est que leur robe, c'est des couleurs chaudes, tu vois, c'est brune, ambrée, blond, blanche, ça donne envie, tu vois. Alors que quand t'es en dépression, il n'y a qu'une couleur, c'est noir, tu la bois. C'est pas très cool.
Non.
Après, dans les deux cas...
C'est raciste en plus.
Après, dans les formes de dépression, donc tu as légère, c'est amer, mais ça reste doux. Ça dure pas trop longtemps. Bon, la dépression, ça dure quand même quelques semaines, alors que si t'aimes pas le goût de la bière, ça va durer quelques minutes tout au plus.
Si t'aimes pas le goût de la bière, on est désolé pour toi.
Non, ben ça va. Puis, tu as dépression dysthymique. Alors, dys, c'est pour le dysfonctionnement, et thymie, c'est par rapport à l'humeur, donc humeur dysfonctionnelle. Dans tous les cas, ça devient un peu plus épicé, écorcé par rapport... à la première forme de dépression, parce qu'en fait ça peut durer vraiment des années. Faut compter au moins minimum 2 ans selon l'OMS, de ce que j'avais pu lire. Et sinon, t'as d'autres formes de dépression qui mettent non spécifiées, mais donc t'as la dépression nerveuse, donc t'es souvent en colère, agressif, tu démarres au quart de tour pour quoi que ce soit. T'as la dépression anxieuse, alors là t'es constamment stressé, t'es aussi sur le qui-vive, mais t'es pas forcément agressif, par contre t'es très émotif. Tu peux vite pleurer pour un rien, tout est exagéré sur tes émotions. Et donc on va en revenir aussi sur la dépression saisonnière, où en hiver, ben ouais, tu peux déprimer plus facilement et tu peux vite tomber dans la dépression. Et donc la bipolarité est comptée aussi sous une forme de dépression. Ensuite, la dépression, c'est comme la bière, c'est du cas par cas. Chacun la vit pas pareil, comme la bière, tout le monde la boit pas pareil. Bref, d'ailleurs, dans chaque bière, c'est pas les mêmes ingrédients, donc tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Mais en plus, les facteurs varient. Donc en fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, différents chez les gens. Donc elle peut être très bien génétique. En gros, t'aimes la bière, c'est une de tes passions, tu la fais partager à tes gosses pour plus tard. Et ben, la dépression.
Alors, elle n'a pas dit tu la partages avec tes gosses. Elle a parlé d'incidence génétique. Donc, si t'as des enfants, il y a plus de chances qu'ils développent un goût pour la bière. Elle n'a pas dit qu'on est en train d'alcooliser nos gamins.
C'est moi, j'ai compris exactement ça.
Bah, en fait, c'était un peu ça le sous-entendu, mais c'est bien que vous avez compris. Et c'est pareil pour la dépression. En fait, si un des deux parents a vécu des moments dépressifs, ça peut se répercuter chez l'enfant. T'as 2 à 4 fois plus de chances que l'enfant développe la dépression.
Ça s'appelle l'exemplarité, ça, toi.
Elle peut être aussi biologique. Donc, alors, je m'y connais moins. J'ai pas trop regardé sur le sujet. Donc, ça peut être dû à des neurotransmetteurs qui sont complètement déséquilibrés. Et ça peut être tout aussi bien hormonal, en particulier avec l'hypothyroïdie. C'est une insuffisance hormonale par la glande thyroïde.
En gros.
Et en fait, t'es tout le temps fatigué. Et bah, entre autres, ça fait que t'es. Comme en dépression, tu.
En fait, la thyroïde, c'est la glande qui régule les humeurs. Donc en fait, si elle se met à dysfonctionner, tu peux avoir par exemple à la fois très chaud, très froid. C'est, ça te fait, comme pour certaines personnes, ça peut. Te donner les symptômes de la ménopause à 30 ans. Mais ça peut aussi complètement t'épuiser parce que ça gère aussi comment tu métabolises l'énergie, comment tu voilà. Et ça peut agir forcément aussi donc, sur ton humeur et sur ta façon de faire. Et c'est vrai que les toisons, tout trouble hormonal, et les femmes enceintes pourront confirmer les choses, mais tout trouble hormonal fait que ça agit sur ton humeur et peut t'amener donc à la dépression ou à l'inverse, à une espèce de jubilation complètement folle, sans raison. Ce qui pourrait être l'hystérie, par exemple, et pourrait être venir d'un trouble hormonal.
Donc voilà, toute une variété de raisons de déprimer.
T'as aussi la santé physique et tout. Ben, par exemple, le cancer, ça peut t'emmener jusqu'à la dépression. J'ai un exemple. Ceux qui sont...
Le facteur déclencheur.
Le facteur déclencheur, ouais. Mais tu sais, ceux qui sont... Qui ont toujours des cancers qui à répétition.
Qui font des rechutes, oui.
Voilà. Ben, au bout d'un moment, oui, forcément, il y a des moments où tu n'as plus la force de quoi que ce soit, donc tu as envie de tout laisser tomber. Après, tu as aussi le mode de vie qui peut jouer par rapport à la vie de famille, comment ça se passe avec tes parents, si tu es en manque d'amour, d'intention, des conneries comme ça. Les faits de groupe, c'était marginaux par rapport à la société, ça peut jouer beaucoup. Les drogues, c'est con à dire, mais oui, tu peux vite tomber en dépression à cause de certaines drogues. J'avais lu vite fait, j'ai pas noté. T'avais deux types de drogues qui avaient un effet sur le cerveau qui te rendait dépressif.
Moi-même, consommateur de soupe lyophilisée que je sniffe assez souvent. Je suis pas bien. Enfin, non, passons. Vas-y, je t'écoute.
Sinon, après, ça peut
être... Que tu les sniffes ou que tu les boives, c'est triste.
Sinon, ça peut être dû à un traumatisme. Genre, j'ai envie de te dire, le viol, hein. Quand on veut porter plainte...
Oui, ou
viol,
juste la perte d'un emploi, par exemple.
J'allais en venir, le burn-out au travail, donc perte d'emploi, ou tu pètes un câble parce que ça se passe pas au boulot, au bout d'un moment, t'explose. Et sinon, le baby blues peut être un des facteurs déclencheurs de la dépression.
D'où les troubles hormonaux. Mais en fait, le baby blues, c'est même plus que ça. Mais bon, on en discutera après.
On pourra faire un épisode sur la parentalité parce qu'il me semble que c'est tout à fait sujet à dépression.
Si on en fait un, je trouve que je fais un autre podcast, j'inviterai des amis à moi qui en peuvent en parler.
Formidable.
Puis sinon, t'as aussi l'alcoolisme. Hein, c'est un des... Ça peut être des facteurs dépressifs. Et la dépression, il faut faire méga quand même attention parce que tu peux finir par avoir des pensées morbides et être poussé au suicide. Non, moi je n'ai pas de chute.
Très bien. C'était donc la fin de cette chronique.
Donc, dans cette chronique, en gros, tu nous as rappelé que dans la dépression, il y avait plusieurs façons il y avait plusieurs facteurs. Donc, grosso modo, si j'ai bien compris, il y a les facteurs, on va dire, plus ou moins
extérieurs,
ceux qui sont déjà en nous, en fait. Dans les facteurs extérieurs, en gros, il y a beaucoup tout l'aspect
social.
Ouais, je dirais écologie de l'individu. au sens l'environnement, l'aspect social, mais à la fois tout ce qui est facteur de stress. Et on en avait parlé un peu avant l'émission. Je me posais la question, quelle était l'utilité peut-être
évolutive.
Et voilà, évolutive. Pourquoi d'un coup on se met à déprimer? Parce que est-ce que c'est parce qu'on se met par exemple en phase de survie? C'est-à-dire que bah malgré tout la dépression favorise le fait que tu manges moins, le fait que tu te laisses mourir. Est-ce que c'est parce que bah à un moment comme tu t'isoles du groupe, tu ne sers plus à rien et donc c'est fait pour te tuer et après tout garantir.
Alors dis-moi tout. Ouais, parce que comme tu as évoqué cette question, j'ai fait une recherche en VidZef 5 minutes et donc j'ai trouvé tout un panel de raisons qui pourraient expliquer quel avantage évolutif apporte la dépression.
Alors, c'est des nuées de sources, hein. C'est tes hypothèses à toi ou c'est...
C'est pas des hypothèses à moi, c'est pas moi qui les ai conçues.
D'accord.
C'est des recherches, malheureusement, j'ai pas noté la source. Mais
si, je pourrais rajouter un truc après aussi.
C'est des études scientifiques, tout ça... Voilà. Donc, okay, ce que j'entends par avantage évolutif, bien sûr, c'est pourquoi la dépression existe, pourquoi l'évolution de l'espèce humaine a permis que ça existe dans notre tête.
D'accord.
Donc, la dépression, ça peut être bien parce que ça apporte une conservation d'énergie. C'est-à-dire que face à un problème insolvable, insoluble, je sais pas.
Insoluble,
ce mot me fait chier.
Ouais. Voilà. Ouais, insoluble.
Face à un problème insoluble, tu vas naturellement te décourager et finalement abandonner des idées qui seraient totalement improductives. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, un peu comme quand tu poses ta main sur une plaque chauffante dans ta cuisine, tu te brûles. Et du coup, ça t'apprend qu'il ne faut pas toucher les plaques chauffantes parce que c'est dangereux pour ta santé. Et ben, dans la même situation, le fait que tu souffres physiquement, pas que physiquement, de la perte d'un proche ou de la perte de ton emploi, que tu sois déprimé, quoi, enfin dépressif, ça t'apprend qu'il faut éviter le genre de situation qui t'expose à ce genre de tristesse. Voilà, donc c'est de l'apprentissage. Il y a encore tout un tas d'explications. Ça permet d'éviter qu'on se bouffe tous les uns les autres parce qu'on est des animaux sociaux. Et donc, le fait que certains d'entre nous soient dépressifs, ça induit une moindre compétition sociale, non seulement sociale, mais aussi reproductive. Je relis mes notes, excusez-moi. Les dépressifs ont tendance à beaucoup ruminer les problèmes qu'ils rencontrent. Et donc, finalement, vu qu'ils abandonnent toute autre activité et qu'ils passent leur temps à penser à ça, ça peut être un bon moyen pour trouver des solutions aux problèmes. C'est vachement bien, la dépression.
Surtout quand on te fait culpabiliser aussi. Ça, c'est super.
J'en ai encore relevé deux autres des avantages évolutifs. Il y a la théorie du signal honnête. C'est-à-dire que quand tu dis que tu vas mal, les gens n'ont pas tendance à te croire. Alors que si tu te mets à perdre 10 kilos, à être diagnostiqué dépressif par un professionnel de santé, etc., ça montre à tes proches que tu es honnête. Et du coup, ils vont avoir plus tendance à t'aider et à t'apporter des solutions. Donc, dans une logique sociale, encore une fois, ça permet une meilleure survie de l'individu.
Marine, vas-y.
Non, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y en a, ils font carrément l'autruche. Ils n'acceptent pas, en fait, que tu sois mal. Et oui, ça ne se voit pas forcément, même si tu continues à aller au boulot. Ben, quand tu rentres chez toi, que tu as toujours mal au dos, que tu es en train de pleurer pour un rien, même quand on te dit quelque chose, ben, tout va mal. Après, on te dit non, mais ça ira mieux, c'est sûr.
Et enfin.
T'as envie de leur cracher à la gueule.
Et enfin, le dernier avantage évolutif qui fait que la dépression, c'est vachement cool, c'est que c'est la théorie de l'extorsion de fitness. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, en quoi ça consiste? Comme tes gens tes gens, excuse-moi, ton entourage va, comment dire, subir ta dépression, va être triste en même temps que toi. En tout cas, c'est ce qui se passe la plupart du temps si tu es entouré de bonnes personnes. Ils vont avoir davantage tendance à essayer de t'aider pour eux-mêmes cesser de subir cette tristesse, pour eux-mêmes aller mieux. C'est pour ça qu'on appelle ça l'extorsion de fitness. En
Et
fait, tu draines l'énergie des gens pour aller mieux.
Mais c'est pour ça aussi qu'il faut éviter, c'est si toi-même t'es pas bien, ça sert à rien d'aider un dépressif. Au mieux, c'est de le soutenir.
Oui, bien sûr, mais de toute manière, le fait que
Non
tu
mais
sois
je veux
très
dire,
proche d'un dépressif fera que tu vas pas bien.
oui, mais
Si tu as un minimum de d'empathie.
oui, si t'as de l'empathie. Non, je dis pas le contraire. Mais le fait que dans un sens, toi, t'es sûr que non, ça va, sauf que oui, voir la personne, ça te rend triste. C'est plus facile de l'aider que si déjà toi, t'es déjà pas bien pour autre chose. C'est ça que je veux dire.
Bravo. Je suis d'accord.
Bon.
Voilà pour les avantages évolutifs de la dépression. J'espère que ça a répondu à tes
Ouais.
questions.
Oui, tout à fait. De toute façon, après, j'aurais une seconde question, mais à vrai dire, je pense que ça tombe bien. Elle irait bien à la fin de ma chronique. Donc, je vous propose de mettre la coupure musicale là maintenant. Et comme ça, on enregistrera la seconde partie de la chronique. Enfin, ma chronique juste après. Donc voilà, donc on va faire la pause musicale avec une chanson super sympa. C'est ouvert, donc en plus de ça, je vais pouvoir le lancer en direct à nouveau. Donc, on se retrouve juste après pour ma chronique sur est-ce que la vie c'est de la merde?
À tout de suite.
À tout de suite.
Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Le retour ravive à l'île du cavalier. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Notre nom sera oublié avec le temps. Notre nom sera oublié avec le temps. Se dissoudra. Se dissoudra.
Et voilà, nous allons pouvoir commencer la seconde partie de ce dimanche dépression. Donc, c'est toujours Guillaume avec Laurent et Marine et Luc qui traverse mon appartement tel un fantôme en peignoir.
Fantôme en peignoir.
Mais nous ne l'avons pas dit, mais il est très beau. Pour ceux qui ne le voient pas
il est un pigeon qui se prend un poulet.
Je pense que ça va dire une tradition. Dijon qui traverse le centre-ville de Dijon pour venir participer à nos podcasts. On le remercie pour la technique d'ailleurs.
Donc, nous allons passer à la seconde chronique. La seconde chronique, voilà. Allez, c'est parti. 3, 4. C'était un de ces soirs de mai où le soleil se couchait sur l'horizon. Louis, 19 ans, fumait sa cigarette à la fenêtre de la maison familiale, perdue dans les champs de maïs de la bourgade de Villers-sur-Loing. Dans le bruit des insectes, il restait là pensif, ressassant les souvenirs de sa relation amoureuse avec la voluptueuse et douce Jessica. Pourquoi l'avait-elle largué? Pourquoi lui avait-elle préféré ce sapajou de Laurent? Était-ce son goût prononcé pour la cuisine bulgare et les flageolets qui lui avaient porté préjudice? Dans sa tête, l'enchaînement des événements, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'a pas osé dire, se chamboulait comme une poignée de hamsters secouée dans le grand shaker de la vie. Dans un moment de blanc intérieur, il cria « La vie !» C'est de la merde! Combien de fois avons-nous dit cette formule un peu convenue? Combien de fois nous l'avons entendu d'un ami désabusé sur les conditions de son existence et d'être au monde? La vie, c'est de la merde, semble être la phrase standard, le tube de la dépression au sein du monde francophone. Quand tu vis à Châteauroux, à côté de la centrale d'épuration, la vie, c'est de la merde. Quand tu t'es fait larguer avec Tuchel en écoutant du Adèle, la vie, c'est de la merde. Quand t'apprends que Johnny est mort, la vie, c'est de la merde. Quand l'ascenseur de 3 mètres carrés de ton immeuble se bloque un dimanche soir à 23h avec toi à l'intérieur, la vie, c'est de la merde. Quand tes parents ont décidé de t'appeler Charles Grégoire alors qu'ils habitent en ZEP, la vie, c'est de la merde. Quand ta bagnole ne débarque plus et que t'es obligé de rouler en multiplat, la vie, c'est de la merde. Quand tu dois écrire une chronique pour le podcast Dimanche Dépression et que 24 heures avant, t'as toujours rien fait, la vie, c'est de la merde. Il semblerait que l'expression soit devenue un espèce de passe-partout pour exprimer son mécontentement face à diverses frustrations. Dès que le monde n'est plus à la hauteur de notre espérance, nous lâchons telle une interjection, la vie, c'est de la merde. Je pense que tout le monde en conviendra, il est peut-être un peu excessif de l'affirmer ainsi haut et fort. Certains dépressifs diraient même que cette expression est cliché. On peut penser que sa vie n'a pas d'issue, mais pour autant que la vie est une promesse pour tous. Je propose donc de poser la question suivante. Est-ce que la vie... c'est vraiment de la merde. Il s'agira de déterminer ici si cette expression n'est pas totalement surcotée, comme le dernier Assassin's Creed et l'album posthume de Johnny Hallyday. Nous sommes bien d'accord que dans cette expression, la vie n'est pas au sens biologique, mais renvoie à l'existence individuelle, notre présence au monde comme on la perçoit. En gros, les matins difficiles, les collègues et leurs remarques débiles, le déjeuner fade, les déjeuners fades, nos après-midi de digestion lente, les soirées télé devant Cyril Hanouna, les discussions sur Messenger sur la pluie, le beau temps et la taille du sexe de Jeanne Marie, les 34 stories snap à l'intérêt particulier, notre sommeil approximatif tous les soirs, etc., etc. Ce n'est pas seulement notre action, c'est aussi tout ce qui la compose socialement, à savoir nos collègues, nos potes, nos conversations sur Messenger. Son cadre, enfin notre cadre, notre taf pour pouvoir manger et ses limites matérielles, c'est à savoir par exemple où est-ce qu'on habite et aussi combien de sous on gagne. Bref, la vie quoi. Et la merde dans tout ça. Dans l'expression « la vie, c'est de la merde », la dénomination fécale apporte une notion dépréciative. « La vie, c'est de la merde » signifie en très rapide que tu considères que ta vie, ses aspects, ses cadres sont à jeter dans une cuvette à la taille de tes fesses pour mieux tirer la chasse. On pourrait considérer qu'il y a donc dans cette expression une certaine forme d'impasse.
Ou derrière un buisson.
Ou derrière un buisson. Dire « la vie, c'est de la merde », c'est considérer qu'elle ne vaut rien. La vie, ta vie, ma vie, notre vie, mériterait-elle donc d'être essuyée sobrement à l'aide d'un papier toilette à la qualité de douteuse et disparaître ainsi dans les tréfonds d'une tuyauterie en plomb ?
Ou grâce aux feuilles du dibuisson.
Exactement. Accordons-nous d'abord sur une chose. La contingence de notre existence est un miracle. La chance que la Terre existe, que la vie y apparaisse et que d'une paramécie unicellulaire nous débouchions sur un être doué d'intelligence, qu'après autant de générations nous soyons là, tient d'une probabilité statistique infime. Cela peut paraître donc déjà fou et semble éloigner sur un plan objectif la vie, du moins la nôtre, de la merde. Ensuite, plongeons-nous dans la vie de nos auditeurs. La tienne, la mienne, la nôtre, c'est-à-dire celle du français moyen, quelle que soit sa couleur et son genre. Notre auditeur a forcément un ordinateur pour nous regarder en live ou un smartphone pour nous écouter en audio. Il appartient déjà à une certaine classe de la société, de celle qui peut se permettre d'être en phase avec la technologie de son temps. Sans être privilégié, il n'est pas déconnecté de son époque. Bien souvent, il comprend son monde. Sans vouloir être nostalgique, n'oublions pas qu'il y a 10 ans, YouTube, Facebook, Google n'existaient pas ou étaient à l'état protozoaire. Notre rapport au monde, son accessibilité, était donc extrêmement mesuré. Désormais, nous avons accès à tout et à tous, au revoir l'ennui, peut-être même la solitude. À n'importe quelle heure, quelqu'un, quelque chose, où que nous soyons. À l'époque, nous n'avions qu'un tatou pour envoyer un texto. Désormais, Messenger nous donne le droit d'importuner n'importe qui et à n'importe quelle heure. Qui n'a pas déjà envoyé un texto ? Tu fais quoi ? Je me fais chier. Telle une bouteille à la mer. Avant, on s'emmerdait sec à la maison. Aujourd'hui, on continue de s'emmerder, mais tous nos amis le savent. On sexte, on snap, on Facebook, et quand on a éclusé tout cela, on mate des gens qui éclatent leur point noir sur YouTube. Eh, franchement, elle est pas belle la vie. Ensuite, théoriquement, s'il peut écouter nos insanités et nos suggestions pour tromper l'ennui, c'est qu'il est issu du monde libre et démocratique, dont on parle de l'auditeur, hein, vous l'aviez compris. Certains diront que le capitalisme n'est pas la garantie de la pluralité, et je ne vise personne parmi nous. Cependant, reconnaissons-le, s'il vit en France, il habite dans un pays en paix depuis plus de 70 ans. Il peut aller où il veut de Lisbonne à Riga, ne pas être inquiété par la police tous les 100 mètres, et poster ce qu'il veut sur Facebook, à part peut-être des dick pics et des photos d'enfants morts. Il peut donc vivre sa vie comme il l'entend, s'habiller en clown tous les jours ou écrire des pamphlets contre l'eau chaude, rien ni personne ne pourra l'ennuyer. Par contre, il est vrai que ses conditions de travail seront déterminées par son éducation et peut-être un lot de contingences qui ne dépendent pas seulement de lui. Si on se rapporte au salaire médian par mois, il gagne 1 770 € et donc peut se payer un toit et de quoi manger. Donc au mieux il a un métier qui lui plaît, au pire il a un métier qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Si tu as tout ça, rappelons aujourd'hui qu'il y a 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et que eux, par contre, ils ont vraiment une vie de merde. Et ils peuvent le dire. Cependant, il est probable que parfois, même la personne la mieux payée et la plus entourée du monde se sent seule et sombre en dépression. Rappelons que nous avons laissé Louis dans son dépit amoureux au début de cette chronique. Il n'a plus de copine, bien trop de capotes achetées en promo à Carrefour et le cœur en miettes. Sa vie est-elle de la merde ? On peut se poser la question. Nous arguerons sûrement que non, puisque lui a 19 ans, des parents, la possibilité de fumer sa clope papère et de dire des gros mots. Cependant, nous ne sommes pas Louis. Sûrement qu'en réalité, notre perception est celle qui doit prévaloir. Après tout, les fils du mal-être sont déconnectés de notre réel. Jamais l'être humain n'a aussi évolué avec une capacité d'analyse de son mal-être. Cependant, les ventes de Xanax explosent et au vu des chiffres de l'OMS, 15 des 30 pays ayant le plus fort taux de suicide font soit partie de l'Europe, soit partie des pays les plus développés du monde. La plupart des pays européens se suivent dans un mouchoir de poche dans les 50 premières places. Preuve s'il en est que le bonheur ne tient pas forcément à tout ce que j'ai décrit précédemment, mais j'ai tendance à penser que c'est un nécessaire prérequis. Un bon point de départ vers la satisfaction, en somme. Quand le monde nous permet de donner un espace libre à notre accomplissement, alors il n'y a plus qu'à. Rappelons que les taux de suicide les plus forts sont encore dans les pays les plus oppressifs du monde. Et il y a même certains pays, on n'a pas les chiffres, mais on peut penser que le taux de suicide en Chine est relativement élevé. Vous vous direz alors que la plupart de mes propos n'ont donc servi à rien. Je vous répondrai que oui. Alors, pourquoi faire une telle chronique? Parce que peut-être qu'en définitive, la vie, en réalité, c'est vraiment de la merde, mais qu'en rire et y mettre du sens, c'est encore la meilleure des choses à faire.
Voilà, c'est pour ça qu'on rigole, nous.
Et c'est pour ça qu'on fait le podcast de la dépression.
On est des joyeux de rire.
C'est là que je voudrais sauter sur un truc, c'est en fait c'est être toujours négatif, forcément ça va juste ne pas aider à aller mieux. Et ça me refait penser, en fait c'est quand j'avais acheté un bouquin, c'était pour redessiner, c'était dessiner avec le cerveau droit. Et c'est Betty Edwards qui a fait le livre, c'est une artiste qui a fait aussi des études de psychologie, elle a travaillé je sais plus avec quel médecin je sais pas quoi, et en fait à un moment il disait forcément si vous êtes pas encourageant, si vous êtes toujours négatif avec votre gosse quand il dessine, dire s'il y a aucun signe d'encouragement, forcément il va vite abandonner le truc et il va se dévaloriser lui-même pour plus tard. Et c'est pareil en fait, si on commence à dire la vie c'est de la merde, ben forcément
ta vie sera de la merde.
Voilà. À un moment, il faut être positif et avoir la pensée créatrice.
Effectivement.
Ben ça, c'est une grande théorie des bouddhistes qui vise à dire que... Enfin, certaines philosophies bouddhistes et certaines philosophies aujourd'hui du développement
age.
Personnel qui vise à dire que la vie n'est que ce que tu en fais. C'est-à-dire que si tu décides que tu es un mec irrésistible, eh bien, tu feras en sorte d'être un mec irrésistible. Et si inversement, tu penses que tous les aspects de ta vie sont pérables et que tu vas dire que ta vie est pérable, eh bien, tu feras en sorte que ta vie soit pérable pour justifier en fait ton propos.
Voilà. Donc en fait, on accorde aux choses. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde, pour résumer.
Mais c'est vachement bien résumé en une phrase. Est-ce que tu n'as pas été le célèbre inventeur des haïkus ?
Non, pas du tout.
Quelle déception.
Moi, je voulais rebondir sur un de tes propos. Le leitmotiv de cette chronique, c'était « La vie, c'est de la merde ». Alors ça, je ne sais pas exactement. Je ne me suis pas trop documenté sur la question. En tout cas, ce qui est sûr...
je connais la vie, je connais la merde, mais j'avoue, je n'ai pas poussé le concept.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la merde, c'est la vie.
Wow.
Parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de merde.
Ça, c'est bien une remarque de mec qui a un jardin bio. Hein.
Un quoi ?
Un jardin bio.
Sale
hipster de merde qui fait des composts avec ses épluchures.
Pour te dire,
tu me dégoûtes. Non, vraiment.
Mon balcon est orienté plein nord. J'ai même pas assez d'ensoleillement pour faire pousser des tomates. Ma vie, c'est de la merde.
Moi, je voulais revenir sur un point avant de venir, enfin, d'enchaîner sur le retour sur l'expérience. C'était est-ce que vous pensez que, parce que c'est un peu aussi ça le propos de ma chronique, qu'on est égaux face à la dépression? Est-ce que, par exemple, il y a des gens peut-être qui ne vivront jamais la dépression de leur vie et on a tendance à penser que moins t'en sais et plus t'as une vie simple, moins en fait tu te poses des questions et tu risques d'être déprimé? Et inversement, Chateaubriand disait une grande âme suppose de grandes souffrances. Donc est-ce que vous pensez que voilà, on est égaux face à la dépression?
Bah. Comme Marine l'a évoqué, si tu as des parents dépressifs, tu vas avoir des prédispositions. Donc je pense que, partant de là, non.
Oui, mais est-ce que c'est justement parce que tes parents dépressifs ont une vision du monde justement négative, qui t'ont insufflé à toi ? Toi, on en parlait, on disait finalement tu n'es que... La dépression, au-delà du fait pathologique, et d'abord aussi peut-être une vision du monde, une façon de le percevoir, et que peut-être qu'elle est conditionnée à ton éducation, par exemple.
Oui,
ou alors,
c'est un peu l'œuf qui fait la poule ou l'inverse.
Oui, c'est pas faux.
Je pense pas qu'on soit égaux, parce que du fait que, comme on en disait tout à l'heure, il y en a, ils sont diagnostiqués dépressifs qui ne le sont pas, et d'autres qui le sont, qui ne sont pas forcément aidés, ou pas de la bonne manière. Parce que, comme on a vu, il y a différentes façons de soigner une dépression, avec les cachets, avec des médecines un peu plus... des médecines alternatives, on va dire. Ça marche pas forcément pour tout le monde, donc égaux, je pense pas tellement, tu vois. Alors que oui, ils sont égaux dans le sens où tout le monde doit être aidé.
Voilà.
Mais c'est pas encore le cas.
D'accord. Bon, c'est le moment.
Je dirais que la dépression, ça doit toucher plus particulièrement les personnes isolées, donc peut-être les personnes âgées ou ce genre de choses, de manière générale. Même si. Ça alors,
alors, stati- en fait, alors, statistiquement, c'est sta- plus
statistiquement,
les 12-30.
C'est entre 20 et 30 ans qu'il y a le pic de dépression.
Exactement. Et après, visiblement, c'est à partir de 50 à. Enfin, en gros, visiblement, les personnes qui sont en perte d'autonomie. Ce qui n'est pas très surprenant voilà. En soi. Donc,
en fait, ce que je voulais dire par les personnes âgées, je voulais pas parler d'une catégorie de, d'âge, mais vraiment de l'isolement. Parce qu'on sait que les personnes âgées ont tendance à être assez seules.
En réalité, mais pas nécessairement.
Oui, non, parce que quand tu regardes ce qui se passe actuellement, rien que dans les EHPAD où ils sont en sous-effectif, rien que dans le travail, et ben forcément, ils peuvent pas s'occuper de toutes les personnes âgées. Il y en a, ils se laissent mourir parce qu'ils peuvent pas se nourrir, des conneries comme ça, ou parce qu'en fait, ils ont besoin de leur famille.
Oui, en fait.
Même toi, tu nous avais dit.
Il y a une sorte d'isolement, c'est-à-dire qu'il y a quand même une rupture entre.
Société, eux.
Non, je te dirais, ta sphère intime, qui est celle de ta maison, généralement pour une personne âgée, elle a vécu toujours dans la même maison pendant peut-être 20 ans, et d'un coup, on la coupe, on la déracine, et c'est généralement ça qui favorise ce qu'on appelle les syndromes de glissement et dépressifs, qui font que la personne, d'un coup,
Oui, assez souvent, quand tu rentres dans une maison de retraite, ça te met un coup au moral, et puis.
Bon, on estime que l'espérance de vie d'une personne âgée qui rentre en maison de retraite est de 2 mois. Et c'est souvent lié justement à un syndrome dépressif. D'ailleurs,
c'est pas parce que les aides-soignants font mal leur travail, bien au contraire, on les salue. Mais c'est bien à cause. On pourrait rapprocher ça d'une perte de statut social en fait.
Ouais, exactement. Puis bon, voilà, je te dis, un déracinement. C'est vraiment, je pense, d'un coup, on les sort d'une société, ce qui est souvent leur vie, leur infirmière qui passe. Ouais, puis c'est pas ça, c'est que ils ont l'habitude de voir leurs enfants, de voir leurs voisines, de voir, je sais pas, tout un lot de choses, d'avoir leurs habitudes dans leur maison. Et d'un coup, hop, tu les déracines d'un coup, ils voient plus personne, on leur impose des gens. On leur impose on leur impose des gens, leurs voisins, de nouveaux voisins, de nouvelles personnes. On leur impose parfois, souvent, d'être confrontés à la maladie qu'ils vont peut-être contracter. Troisième chose, on les confronte à un rythme de vie qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que d'un coup, tu passes de la vie toute seule à la vie en collectivité. Donc en fait, c'est vrai que les personnes âgées, elles se laissent glisser à cause de ça.
Voilà. Après, on va pas parler, on va pas épiloguer sur la vieillesse, c'est pas le sujet de.
Et ce sera le sujet d'un autre épisode. Et je pense que c'est le moment où on peut lancer le retour sur l'expérience. Et quelles sont, à vrai dire, votre expérience liée à la dépression ? Est-ce que vous avez déjà été déprimé ? Est-ce que vous avez été.
Alors, attends, déprimé, dépression.
Alors, est-ce que vous avez déjà souffert de dépression ?
Oui.
Alors, Marine, nous t'écoutons.
Déjà, c'est pas compliqué. Déjà, ma mère était dépressive à l'âge de 16 ans. Donc comme ça, déjà, je pense que j'ai un peu hérité de ça.
Prérequis.
Oui, j'ai eu déjà des prérequis, c'est super. Hein. En plus, on est 3 dans la famille. Après, je sais pas comment ça s'est trop passé pour mes sœurs. Déjà, elle, c'est pas compliqué. Traumatisme aussi, du fait qu'elle a été violée étant gamine. Donc ça emmène tout sur le sujet.
Ça balance.
Voilà. Et moi
et
j'ai un peu suivi
une
le
bonne soirée sur Dimanche Dépression ce soir.
J'ai suivi un peu le même chemin parce que tu vois, déjà à l'âge de 6 ans, plus de maman. J'ai été baladée un peu trois fois à gauche, j'ai été chez ma grand-mère m'a remis la faute à tu. Et déjà, tu démarres bien la vie pour aller au collège et tout. Et après, oui, les gens comprennent pas forcément pourquoi t'es agressive, tu démarres au quart de tour, t'es méchante, tu préfères. Tu veux pas forcément être isolé, mais pas trop le choix, parce que t'as l'impression que les gens t'acceptent pas. Et pour en parler, c'est bien plus compliqué que ça, et tu fais ta vie, hein. Bon, j'ai eu quand même de la chance, ou un père, déjà, rien que... Comment on dit ?
Qui t'a soutenu ?
Au décès de ma mère, oui, ils m'ont tout de suite envoyé, c'est un psychologue. Par contre, c'était des psychologues d'hôpital, c'est pas top. C'est en retournant au collège, vu que j'étais... Cette fois-ci, je n'étais plus... J'avais fait déjà... Ah oui, parce qu'en fait, j'ai fait aussi 2 familles d'accueil, entre guillemets. La première famille d'accueil, le mari aussi était dépressif, s'est suicidé.
Vraiment
Ah non, mais j'ai eu un petit chemin de vie, moi. C'est pour ça, déjà, vivre
un
avec des dépressifs.
Un petit chemin de vie comme ça, tu vois. Bon,
sais ce que c'est.
J'ai roulé ma bosse, quoi. Voilà.
Et puis après, le collège, forcément, je l'ai très mal vécu. Ainsi que lycée, où du fait, j'ai atterri à l'internat. Ça m'a pas plu parce que là tout de suite, tu te retrouves confronté à plusieurs groupes et tu te sens pas à l'aise forcément dans chaque groupe. Et ben, tout de suite, ouais, j'avais un côté marginaux par rapport à eux, par ma façon de penser, vivre, m'habiller et tout. Ça joue beaucoup. Puis bah, les relations amoureuses, forcément, ça se passait mal parce que, bah, voilà, déjà, pour leur expliquer que, ouais, t'as mis un sexe, mais bah, y a des moments, bah, tu bloques, quoi.
Ah ouais.
Et tu veux pas forcément raconter parce que bah, c'est assez intime en, de base et tout le monde ne peut pas comprendre ça. Et puis, ben, une fois que j'ai fini les études, une année où tu savais pas trop quoi faire, si je devais travailler directement, continuer les études, en fin de compte, j'ai trouvé du boulot primaire pendant 3 ans, où ben, là, je crois que j'ai vécu ma plus grosse dépression, où j'étais vraiment toute seule, isolée, et je me laissais mourir, en fait. Sauf que, ben...
Parce que Primark.
Primark. Mais, ouais, un boulot qui me plaisait pas, tout le temps stressé, ultra stressé, j'avais tout le temps mal au dos. Je mangeais pas forcément beaucoup.
Mal au pied, peut-être aussi.
C'est pas pour autant que j'ai maigri, tu vois. Mal au pied, ouais, quand tu piétines, t'as mal au pied. Et en fait, dès que je rentrais en week-end en temps chez mon père, ben là, c'était grosse engueulade. J'avais besoin de pleurer parce que ben, j'évacuais tout ce qui allait pas. Mais par contre, même avec mes sœurs n'acceptaient pas trop le fait que j'aille mal. Donc, ça m'a pas trop aidée pour aller mieux. Et le fait que les médecins prenaient pas au sérieux mon mal de dos, ben... Ça n'a pas aidé non plus, donc je voulais plus aller au médecin du tout pour parler quoi que ce soit. J'arrivais même pas à dire que j'allais vraiment pas bien en soi, parce que ben c'est con à dire, mais souvent maintenant dans la tête de plusieurs médecins, dire que ça va pas, pour eux c'est juste que t'as pas envie de bosser. Mais non, des fois c'est plus que ça. Mais voilà, en soi, sinon ça va. Hein.
Maintenant elle est guérie, elle a des habits en or.
Oh, en fait, sinon...
Écoute, non, mais...
Ce soir, quoi, elle a mangé des lasagnes.
Non, mais c'est possible de s'en sortir. Moi, bon, le souci, c'est que j'ai pas forcément eu d'aide, mais ceux qui ont des mains tendues, faut pas qu'ils hésitent. Au contraire, c'est le moment ou jamais. C'est pour ça, moi, j'ai tendance un peu à m'énerver contre les gens qui font rien alors qu'ils ont la possibilité. Et en fin de compte, non, ils refusent. Ils envoient tout chier. Non mais maintenant je suis assez dure là-dessus ou ben alors que si c'est
le
possible.
Fait est que t'as accepté ta dépression et que enfin t'étais consciente de ton état en fait.
Ben à la fin, ben en fait c'est en regardant la vidéo de Psylab, parce que en plus pendant mes 3 ans j'ai vécu avec un ex qui a pas arrêté de me rabaisser et qui me disait non mais ça ira mieux, t'inquiète pas, c'est juste le boulot, ceci cela. Même en changeant de boulot j'ai eu du mal à m'en remettre hein, sur le coup. Mais si, c'est possible. Et ouais, c'est en regardant, je te disais, la vidéo du Psylab qui lui expliquait bien la dépression. Bah, tu fais ah, ok, je me retrouve en fait. Et... J'ai réussi à mettre un mot sur mon mal-être, quoi.
Oui.
Ok. Mais ça va. Je m'attendais pas à ce que tu nous sortes tout ça.
Ouais, moi non plus. Je m'attendais à ce que ça soit moins intimiste.
Sachant que tu nous as expliqué en amont que ouais, l'émission, tu n'étais pas sûr de venir la faire. Donc oui, on comprend mieux pourquoi certaines choses.
Mais en soi, ça va. Hein. Maintenant, j'arrive. Il y a des trucs encore à régler, mais je vis.
Bah, le fait que tu arrives à en parler, ça montre que tu.
Je voudrais bien parler de ma dépression, mais franchement, j'ai l'impression d'être une merde. Quoi.
Mais non, mais chaque dépression est différente.
J'ai l'impression d'être un Finlandais dans une compétition, tu vois, genre de beach volley. Tu vois,
Mais non, mais voilà, chacun. Après, regarde, il y en a qui peuvent avoir le même cas que moi, mais la vie papa, il y en a tout de suite, voilà, ils vont être poussés au suicide directement, tu vois, alors que ben.
Ou un Jamaïcain qui fait du bobsleigh.
Exactement. Très bonne référence. Ouais, ouais.
C'est personne à lui pareil, on n'a pas forcément la même force mentale pour tout.
Ouais, c'est vrai. Après, ça, c'est vrai que la dépression ou le fait de s'en remettre te construit. Moi, je sais que j'ai vécu une année très blanche où concrètement j'ai fait une descente aux enfers où je suis allé très mal. Bon, c'est pas comparable à toi au sens où il y avait les facteurs étaient surtout liés à un isolement. À une volonté très forte chez moi de remettre tout en cause et que en fait cette remise en cause m'a moi plongé plutôt qu'elle m'a permis de me hisser. C'est donc faut s'imaginer que je voyais plus personne, j'avais plus envie de voir personne, je rentrais plus chez mes parents, je fumais un paquet de roulés par jour. Je commençais le mois à moins 500 euros parce que j'avais déjà tout dépensé en clope et en alcool. Parce que grosso modo, c'était ça. Fallait tout, tout, toujours tout oublier. Et si tu veux, c'était excessif. Et en même temps, j'étais pas capable d'être raisonné et raisonnable. Parce que justement, tu parles de main tendue. Moi, clairement, en plus de ça, c'est une époque où je me suis un peu scarifié. Donc, enfin, pas qu'un peu, je me suis beaucoup scarifié. Mais voilà, c'était pas. Si tu veux, on pouvait pas me tendre la main. J'étais pas capable d'écouter et je ne voulais pas écouter. Et je m'en suis sorti, on va dire, parce que à un moment, je dirais pas que j'ai vu la lumière au bout du tunnel, mais il y a eu une volonté de, bon, bah maintenant faut prendre sa vie en main, maintenant faut se bouger, maintenant voilà, que c'était pas possible de rester au fond du trou, et c'est ça, voilà, ce qui m'a jamais mis au niveau de la pathologie, mais je faisais 80 kilos au départ, j'ai fini l'année à 50 kilos. Ce qui peut. Voilà.
Quand on parle d'incidence somatique, physiologique,
on voyait,
exemple flagrant.
On voyait mes côtes, j'étais blindé de cicatrices un peu partout. Et un des premiers déclics, ça a été de me retrouver confronté avec des gens qui étaient comme moi et de me dire oh, mon Dieu, je suis comme ça. Et il faut que ça s'arrête. Et à ce moment-là, ça a favorisé la reprise en main. Mais sûrement que voilà, j'avais pas à ce point-là touché le fond parce que. En plus de ça, je pense que derrière, moi, j'ai des barrières mentales qui font que je ne peux pas concevoir le suicide. C'est quelque chose qui n'est inconcevable pour moi et que je ne peux pas accepter.
Mais donc, tu peux être dépressif sans être suicidaire.
Oui, mais si tu veux, j'aurais pu arriver à un moment pathologique où la descente aurait été tellement forte que la remontée aurait été extrêmement difficile, comme je pense se dit les dépressifs chroniques. Moi, ça n'est pas arrivé jusque-là parce que je pense que il y avait, je te dis, des barrières mentales, des espèces de garde-fous qui faisaient que ça ne pouvait pas arriver. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de m'en sortir tout seul. Après, je pense que je suis quelqu'un avec une volonté assez forte dans ce genre de choses-là. Je pense que quand tu t'arrêtes de fumer, alors que tu fumes quoi, je te dis, un paquet de roulés par jour à l'époque, sec, sans traitement, sans rien, et juste à la force de ta volonté,
sans c'est quand même.
Ouais, sans filtre, ouais. Ouais. Je fumais du Sanson, je faisais mes 100 feuilles OCB par jour. Et voilà, c'était non-stop avec, tu sais, le vrai truc de la galère, c'est-à-dire que quand je fumais autant, mais on pourrait faire un épisode sur le tabagisme d'ailleurs. J'allumais mes clopes avec les plaques électriques, enfin tu vois, c'était vraiment la dèche finie quoi. Donc voilà. Après justement, pour en avoir un peu parlé en amont, toi Laurent, tu évoquais la difficulté d'être aidant face aux personnes dépressives.
Oui, effectivement, parce que moi je n'ai pas été dépressif, en tout cas si je l'ai été je m'en souviens pas, ou bien j'ai pas
ça,
été
ça peut durer 2 semaines.
Oui, bah, c'est pour ça, j'ai pas été diagnostiqué en tout cas, mais en tout cas j'ai connu des dépressifs. Je suis même sorti avec 2 dépressives, du coup j'ai l'autre côté, le revers de la médaille, c'est le fait d'être aidant. Et ben c'est presque aussi difficile pour les aidants que pour les dépressifs, mis à part le fait qu'ils ne ressentent pas eux-mêmes le malheur, mais le mal-être de la dépression. Mais quoique parfois, le fait d'avoir un proche dépressif peut entraîner soi-même une dépression. Bref, c'est pas mon cas. Et du coup, ce qui est difficile pour les aidants, c'est d'être avec une personne dépressive qui n'a pas conscience forcément de son état et surtout qui va pas écouter ou essayer de suivre tes conseils, essayer de sortir quand tu lui proposes de sortir, ce genre de choses. Et ce qui est vraiment difficile, du coup, c'est l'impuissance qu'on ressent en étant aidant. Parce que même si tu es une personne qui comprend la situation, ce qui n'est pas donné parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre que si la personne passe son temps à engueuler les autres, c'est parce qu'elle-même, elle passe une vie de merde. Un peu comme les SDF qui passent leur temps à se battre, mais c'est normal qu'ils soient grognons parce qu'ils passent la nuit à se geler les couilles. Bref.
Désolé, c'est pas drôle, mais tu m'as fait rire.
C'est le mot couille qui te fait rire.
Mais non, mais c'est la façon dont tu l'as dit, c'est trop naturel.
Bah écoute, ça doit être parce que je le pense. Oui, bon, du coup, les personnes dépressives sont grognonnes, elles en font qu'à leur tête et tout, mais faut pas essayer de juger. Dans ce genre de cas, t'as rien à faire, c'est une maladie. Tu acceptes le diagnostic du médecin, et même si c'est pas facile, eh ben, tu vas pas lutter contre la perte des cheveux du mec qui fait sa chimio. Hein? Ça... Alors, moi, je fais pas de chimio, sinon j'aurais plus de barbe non plus. C'est juste une leucémie.
Bon.
Non, et c'est pour ça, en fait, ne jamais faire culpabiliser un dépressif parce qu'il est déjà pas bien, c'est pas de sa faute.
Ne pas lui dire, genre, oh, mais vraiment, il y a pire que toi, hein. Il y a des petits Somaliens qui sont en train de crever.
C'est ça. T'as le droit de pas être bien, en fait. T'as le droit, à un moment.
Il y a deux trucs qui fonctionnent pas bien. C'est. Faire des câlins, ouais, ben pourquoi pas, mais c'est pas comme ça que ça va passer, quoi. C'est un travail.
Mais pourquoi les câlins ?
Je sais pas, les gens ils se disent t'es dépressif, t'es en mal d'amour.
Non, au contraire, je déteste qu'on me touche, tu vois. Donc,
alors, de base, je veux dire, il me semblait.
c'est pas forcément le mal d'amour qui fait que t'es dépressif. Et faire des câlins, quoi. Comme si c'était agréable.
Mais je vais devoir vous couper parce que faudrait. Non, on est quand même à une heure d'émission.
Ok, d'accord, mon avis compte pour rien, d'accord, très bien.
Non, c'est pas ça, c'est que il va falloir avancer.
Ouais.
Malheureusement.
Attends, je vais finir.
Plus,
du coup,
je t'écoute.
Faire des câlins. Et sinon, l'autre truc que les gens se disent assez souvent, c'est faut que je lui mette un coup de pied dans le cul, qu'il se reprenne, tout ça. Ça aussi, ça a pas d'intérêt parce que du coup, la personne va se sentir responsable de son état. Coupable de son état plutôt, et ça va pas l'aider.
J'ai envie de dire, la sélection naturelle fait bien les choses. Voilà.
Mais quelle libérale en fait, elle, c'est une furieuse capitaliste, non, Marine.
Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas la peine de suicider, la vie s'occupera de vous tuer à votre place.
D'accord, bonne ambiance.
Je suis horrible aussi.
Bon, alors c'est le moment où, après tous ces échanges positifs, etc., sur un sujet positif, nous allons passer au moment un peu lol, un peu rigolade, un peu, voilà, avec un jingle qui vous a tous les deux plu, je le sais, et où on va partager un truc qui vraiment nous a ravis cette semaine, un truc positif, un truc joyeux, voilà, donc je lance le jingle et on en parle. Bon alors, Laurent, partage avec nous.
C'était l'instant déprimant de la semaine. Arrête de zoomer sur moi, je me sens pas à l'aise.
Partage-nous ta bonne humeur et.
Déjà que je suis sur les deux écrans en même temps. Bref.
C'est beau.
Si vous avez l'audio, cette remarque n'avait aucun sens. oui, donc, l'instant le plus trépidant dans ma semaine. Je dirais que c'était hier soir parce que je suis allé au bar et dans ce bar il y avait une soirée beer pong j'ai participé à un beer pong, j'étais dans la même équipe qu'un ami, mais l'ami en question ne pouvait pas boire parce qu'il conduisait, et donc j'ai passé la soirée j'ai fait plusieurs parties à boire toutes les bières de l'équipe. C'était bien, j'ai 3 litres. Gratuit. La vie, c'est de la balle. Donc, on revient sur la dépression et la bière.
T'as vu, tout voilà. Est lié. C'est une bonne comparaison.
C'était donc, l'anecdote.
Marine, ton truc positif de la semaine.
Alors, déjà, je ne savais plus pour The Witcher si c'était la semaine dernière ou pas. En fait, le jeu, je l'achetais depuis sa sortie. Je l'avais précommandé. Tu vois.
Donc, le Witcher, le
Witcher 3, Wild Hunt, tu vois. Et en fait, j'y ai joué tant en temps, tu vois, sauf que j'avais pas fini. Et en fait, j'ai arrêté en septembre 2017, et j'ai repris le jeu un peu plus d'un an après, pour qu'il me reste une heure de jeu pour enfin le finir. Je vais être contente. Et là, cette semaine, pareil, Dragon Age, j'ai acheté la sortie, et je l'ai fini. C'est positif, j'ai réussi à terminer le jeu.
En même temps, Dragon Age, c'est pas un gros enjeu, hein.
Non, mais alors The Witcher, il y a une durée de vie assez longue quand même. Et
alors, la question c'est combien de temps elle a mis pour le finir, et surtout si elle a fait toutes les quêtes annexes, ce dont je doute.
Non, pas si j'en ai fait quelques-unes de quêtes annexes, mais après The Witcher, je me suis dit faut que je termine. Et en fait, quand tu reprends le jeu un an après, en fait, qu'il te reste une heure de jeu, c'est pas trop quoi penser. Après, le truc positif c'est que j'ai réussi à faire Ciri d'une sorceleuse, tu vois, là j'étais contente.
Les
parce
DLC
que
sont vachement bien.
Quand j'aurai des sous.
Alors moi, le moment positif de ma semaine, vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est bien, ça nous permettra de parler des futurs sujets à développer pour les dimanches de pression. Il se trouve que cette semaine, sur NT1, a recommencé Lady Couple Parfait, qui est sûrement ma télé-réalité préférée. Et c'est glauque. Alors en gros, l'idée, c'est que t'as 10 hommes, 10 femmes, et le but, c'est qu'il y aurait un espèce d'expert de l'amour qui aurait fait des couples parce que c'est leur match parfait. Et en gros, s'ils arrivent à savoir qui va avec qui, ils gagnent à la fin 100 000 euros. Et en vrai, tout est faux, tu sens que tout est toc, tout est nul. Et si tu veux, le plus beau moment, c'est le moment où j'ai réalisé que, un, ça recommençait, et deux, ah, mais en fait, j'aurais pas le temps vraiment de le regarder, j'ai vraiment autre chose à foutre. Et il y a une partie de moi qui, à la fois, a kiffé se dire que ça recommençait, et l'autre qui a kiffé de pouvoir se dire non, c'est bon, maintenant j'ai une vie sociale.
Ouais. Mais tu sais, ça me rappelle énormément quand j'ai appris que Burger Quiz recommençait. J'étais super content, mais j'ai pas regardé un seul épisode depuis que ça recommençait.
T'es pas le seul.
Alors, on arrive à la fin de l'émission, et donc on est. Donc au premier épisode, peut-être au deuxième, je pense que je vais sortir les épisodes audio là au fur et à mesure, sûrement un par semaine en même temps que la fréquence où on développe. Je voulais d'abord vous dire que c'était une extrêmement bonne soirée
bien malaisante.
Non, j'ai pris plaisir à retrouver Laurent qui avait déjà été très bon la semaine dernière. J'ai un extrême plaisir à te voir, Marine,
c'est toujours un plaisir de la voir. Voilà. Bon, après c'est peut-être pas réciproque, hein, mais...
C'est toujours un plaisir de voir Luc en peignoir venir régler le stream et
pour une fois qu'il vient pas tout nu
et errer. Donc ceci étant dit, donc dimanche dépression, maintenant ça va revenir à peu priori toutes les semaines sur iTunes. Vous pouvez aller nous mettre 5 étoiles, nous écouter sur sur Android, sur toute forme de support. Vous pouvez retrouver le live sur Twitch, on le laisse en live, donc il est non monté, mais pratiquement avec tous les jingles, peut-être un peu moins cuté, donc parce que je vais le rendre un peu plus dynamique au moment où je vais le remonter. Donc ça, tout ça c'est dit. Vous voulez faire quoi la semaine prochaine? Vous voulez parler de quoi?
Tableur. Et si on parlait de Google Docs?
On a une liste de sujets déprimants longs comme le bras, parmi lesquels, par exemple, Francis
Cabrel. À moins que les auditeurs aient une idée.
Pour l'instant, Marine, l'idée, c'est qu'on va choisir nous parce qu'on est des enfoirés dictatoriaux,
oui, ça,
et qu'on n'a pas de race. Donc, de toute façon, voilà, on se retrouvera, on choisira le sujet et peut-être qu'on pourra proposer d'autres sujets. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Et là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons avoir le moment ASMR avec Laurent, qui va nous lire le journal de Kurt Cobain. Et ensuite, nous allons mettre un peu de musique. Et s'il y en a qui veulent rester, genre je vois qu'il y a Avocalex et Norius qui veulent continuer peut-être la discussion, on pourra rester un peu en live.
Ouais, parce que moi, j'ai pas du tout vu la discussion du chat.
Eh bien, justement, tu verras la discussion.
D'ailleurs, Luc, toi qui t'occupais du chat, est-ce qu'il y a des questions qui ont surgi, des trucs à...
Allez,
du coup, je disais des questions pas particulièrement. Après, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, il y a Avocalex et Norus qui ont pas mal de choses à dire. Et je pense que peut-être aller sur Discord après, si tu peux en même temps.
Oui, on a un Discord, le Noob voilà, Gang
parce
TV.
Ouais, y en a quelques-uns qui ont rejoint, je ne sais plus qui c'est, je pense qu'il y a Norus. Mais du coup, voilà, si on veut continuer à
on a discuter, Facebook,
on peut
Twitter,
passer sur le Discord.
Mais on n'a plus MSN.
Voilà, donc on ne fera pas ça par audio, en live. Pour les discussions, ça sera sur notre Discord. On vous dit à tout de suite.
À très bientôt.
Tu es prêt? Je ne sais absolument pas sur quoi je vais te mettre. Hein.
Bon, je sais absolument bien ce que je m'apprête à lire.
Voilà.
Que vaut une saison si on ne peut rien avoir? Quelle est la raison d'une rime si un plan peut tout dire? Quel sens a un crime? C'est infâme, rien de plus. Où est la tendance dans une ligne? C'est une marque connue. C'est une marque connue. Voici comment les cultures réapparaissent. Tout était déjà là hier. Et tu jures que ce n'est pas une mode? Aucune importance de toute façon. Ils ne sont là que pour parler à des potes. Rien de neuf, c'est tous les jours. On pourrait chier sur une scène, qu'ils en seraient encore fans. Si c'est une marque connue, si c'est une marque connue, si c'est une marque connue. Tous les guides en bouffront. Si c'est bien emballé, voler un sang et imiter, rester dans un format. C'est ce qui nous manque, mais c'est sans importance.